les par actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 5 décembre 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Et en manchette aujourd'hui, faut-il plus d'accommodement au Québec? L'Agence du revenu accusée de mensonge, elle sauve la vie de son fils. Aussi, en manchette, l'autisme, Autisme Canada qui se préoccupe des crédits d'impôt. La Fédération des aveugles toujours en lutte contre la gare Saint-Roch à Montpellier. En entrevue, j'aurai le plaisir de recevoir Michel Keble, bénévole à Vues et Voix depuis un an, retraité de Radio-Canada. Il viendra nous parler de son expérience de bénévole en cette Journée internationale des bénévoles du 5 décembre. Et aussi, je recevrai Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, qui viendra nous parler de compétition, de résultats de compétition au goalball. Une nouvelle tirée du journal de Montréal.com. Dimanche, c'était la Journée internationale des personnes handicapées. L'Office des personnes handicapées du Québec la célèbre cette année sous le thème des transformations durables pour une société inclusive. Profitons-en pour réfléchir aux pratiques d'accommodement et à leur place dans l'atteinte d'une société inclusive. Depuis une dizaine d'années, nombreux sont les Québécois associés trop rapidement l'idée d'un accommodement à un accommodement religieux. Pourtant, en 2016, la majorité des demandes d'accommodement reçues par la Commission des droits de la personne visaient à corriger une discrimination liée à un handicap. En outre, contrairement à l'impression suscitée par une couverture médiatique souvent sensationnaliste, les demandes d'accommodement pour motifs religieux connaissent désormais une tendance à la baisse. En somme, il est peut-être temps de revisiter le concept d'accommodement raisonnable et de le prendre pour ce qu'il est le plus souvent, soit une revendication de personnes en situation de handicap. Il faut désormais dépasser la simple inclusion de personnes handicapées et plutôt envisager une société qui ne confine pas certaines personnes à une situation de handicap. Dans ce billet, nous exposons brièvement quelques statistiques sur les personnes en situation de handicap au Québec, puis nous ciblons deux éléments qui font obstacle à de véritables transformations de la société. L'IRIS publie cette semaine une étude sur la participation des personnes en situation de handicap dans les organismes communautaires. Cette étude expose les difficultés québécoises au moment d'offrir des accommodements à des personnes en situation de handicap dans les milieux communautaires. L'étude conclut que plusieurs organismes peinent à offrir un environnement non discriminatoire à ces personnes. Sans surprise, le sous-financement du secteur et l'absence de programmes spécifiques pour l'adaptation de l'environnement des milieux communautaires génèrent des situations de handicap chez certaines personnes voulant participer à la vie communautaire. Dans la presse.ca, l'Agence du revenu du Canada, ARC, A-R-C, et sa ministre Diane Leboutillier ont encore été accusées de diffuser des informations inexactes hier, cette fois par des associations de diabétiques qui disent avoir été induits en erreur à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Hier, la presse révélait que les plus hauts fonctionnaires de l'ARC, A-R-C, ignorent quelles sommes ont véritablement été remboursées au fisc, même si la ministre soutient que près de 25 milliards ont été récupérés depuis 2 ans grâce à une lutte plus féroce contre l'évasion fiscale. La controverse d'hier touche plutôt un crédit d'impôt qui aurait été refusé depuis mai dernier à des centaines de personnes atteintes de diabète de type 1, malgré les prétentions contraires de l'agence. Un courriel interne de l'Agence du revenu du Canada, obtenu par Diabète Canada et FRDJ Canada, daté du 2 mai 2017, confirme que l'agence cessera de leur accorder le crédit dans la majorité des cas. Je considère que l'ARC nous a menti en n'admettant pas qu'elle a envoyé ce courriel le 2 mai et en prétendant avoir été choquée d'apprendre qu'il y a eu un changement qui avait un impact sur tellement de gens, a lancé hier Kimberly Hansen, directrice des affaires fédérales chez Diabète Canada, en conférence de presse à Ottawa. Madame Hansen souligne que son organisme a rencontré à 3 reprises des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada au cours des derniers mois en vue de faire la lumière sur la situation. Leurs explications sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées dont bénéficient les diabétiques ont fluctué chaque fois, a-t-elle affirmé. Selon la procédure habituelle, les Canadiens souffrant de cette maladie ont droit à ce crédit lorsqu'ils consacrent plus de 14 heures par semaine à gérer leur thérapie d'insuline. Devant l'impossibilité d'obtenir des réponses claires, Diabète Canada et FRDJ ont formulé une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Cette requête leur a permis d'obtenir le courriel du 2 mai envoyé par l'équipe des procédures et de la revue médicale de l'Agence de revenus du Canada à des dizaines de collègues. La directive édictée dans le courriel se serait déjà traduite par la fin des crédits d'impôt pour des centaines de malades qui y avaient droit depuis des années. En 1985, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a institué la Journée internationale des bénévoles le 5 décembre afin de souligner toute l'importance de la contribution des bénévoles au développement économique et social des communautés. Et en studio, j'ai un bénévole de vues et voix en face de moi, nul autre que Michel Keble. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour Hélène.
Retraité de Radio-Canada.
Oui.
Alors, on reconnaît vite votre voix chaude et unique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir. Vous m'avez appris que c'était la Journée internationale du bénévolat.
Ah, pour vrai?
Mais oui, parce qu'on fait du bénévolat sans penser nécessairement à toutes ces choses-là. Oui. C'est intégré dans la vie, le bénévolat.
Alors, le 5 décembre, vous allez vous en souvenir.
Oui.
Est-ce que le bénévolat est entré dans votre vie il y a un an ou avant que vous ne soyez retraité de Radio-Canada?
Il y a un an ici, un petit peu plus d'un an ici à Vuzévoix.
Mm-hmm.
Mais auparavant, j'avais fait quelque chose d'un peu semblable d'ailleurs. Vous connaissez peut-être l'organisme Lire et faire lire, qui s'adresse plus aux jeunes, aux tout petits de l'école primaire. En tout cas, c'est ce que moi j'ai connu. Alors, j'allais leur faire des lectures à l'école même, avec l'accord des professeurs, bien sûr. On se mettait dans une petite pièce à côté, je leur lisais un livre et puis...
Qu'est-ce que ça vous procure de faire du bénévolat?
Qu'est-ce que ça me procure? La sensation d'être utile, ça, c'est quand même assez fondamental, je pense. La sensation de faire quelque chose d'utile et de constater de temps à autre que c'est vraiment utile. Parce que j'ai un commentaire, parce que j'ai des proches qui ont pu en bénéficier. Ça, je dirais que c'est la raison principale.
Ouais.
Ouais.
Et pourquoi vous avez choisi de faire du bénévolat à Vuzévoix?
Ah, parce que j'ai toujours aimé utiliser la voix. J'ai toujours aimé ça. Puis avec toutes ces années-là derrière, j'ai acquis quelques ressources. Et puis, c'est très plaisant et rassurant de pouvoir faire ça une fois par semaine, de se raccrocher à quelque chose de connu. C'est très paradoxal. C'est quelque chose de connu, ce que j'utilise, parce qu'il y a l'expérience.
Ah,
mais en même temps, c'est toujours l'inconnu. Un nouveau livre, c'est l'inconnu, totalement. Et certains nous obligent à aller chercher pas mal ce qu'on a.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
Ici?
Oui.
Le titre exact...
Un roman ou...
Je ne l'ai pas. Oui, c'est un roman. Mon Dieu, c'est drôle que j'ai plus le titre en tête. J'en ai parlé encore hier.
Ouais.
Bon, excusez-moi. Enfin. J'ai ce petit blanc. Mais ça, c'est un livre... ça se passe à l'époque de la chasse à la baleine au 19e siècle. C'est très noir, c'est très sombre. Ce sont des baleiniers qui montent quasiment jusqu'en Arctique au 19e siècle. Et il y a beaucoup de personnages. Alors, j'essaie de faire un peu la voix du plus méchant, celle du capitaine, celle du médecin de bord, qui a connu aussi son lot de malheurs avant d'embarquer sur ce navire. Et puis, oui, c'est noir et très touffu comme histoire.
Oui. Je me demandais, depuis combien de temps vous faites du bénévolat à Vues et Voix?
Ça fait un peu plus d'un an.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Okay. Et est-ce qu'il y a des personnes autour de vous... Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si ça vous intéresse de le faire, oui, qui a un handicap visuel.
Oui, oui, mon père.
Ah,
mon
oui?
père a toujours eu une vue très, très affaiblie depuis la naissance.
Vous avez lu pour lui?
Non, ce n'est pas vraiment arrivé, mais je pense à lui quand je lis.
Ah oui?
Il est loin d'ailleurs, il est en Gaspésie, je n'ai pas l'occasion de le voir souvent. Mais il a cette vue très, très faible et... Voilà, je pense à lui souvent quand vient le moment de m'asseoir là-bas.
Parce que ce sont des gens qui ont des limitations visuelles. Ceux qui profitent de vos services, c'est la clientèle visée.
Ben oui, mon père lui-même n'a jamais vraiment lu à cause de ça. Très difficilement, je me souviens de lui penché sur la table de cuisine avec une bonne lumière. Là. Il arrivait à déchiffrer quelques articles de journaux.
Ah oui.
Mais assez péniblement.
J'imagine que ça vous a sensibilisé à cette situation-là, oui.
Et là, il est très vieux maintenant. Vous savez, il y a ces moyens qu'on offre aux gens qui n'ont pas une bonne vision. Des enregistrements comme ceux qu'on fait
ici. Oui, oui.
Et ils ont la capacité, ils ont la possibilité d'en écouter. Et lui, comme ça n'avait jamais été intégré dans sa vie, on lui a proposé ça, je pense, à plus de 85 ans.
Ah oui?
Et il ne savait pas trop quoi faire de ça. C'était déjà trop vieux dans son cas.
Ah bon, donc...
Malheureusement.
Il faudrait que vous lui envoyiez vos enregistrements à vous, peut-être, qui serait peut-être un peu plus intéressé.
il est encore plus vieux que jamais. Hein?
Ah oui, il a quel âge?
Ben, il a 90 ans maintenant.
Bon, ben, on le salue, son nom?
Pierre.
Le père de Michel Kibble. Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir de la difficulté à lire un livre parce que vous ne l'aimiez pas ou parce que vous étiez, je ne sais pas, trop bouleversé? Ben,
oui, justement, celui-ci. Celui-ci,
ah oui?
C'est très, très, très noir dès le début. Ça va dans la fange dès les premières pages. Et c'est un peu de réticence quand ça commence comme ça.
Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là?
Eh bien, je me dis que ça va peut-être être meilleur et souvent, ça le devient. Ça devient meilleur à cause du talent de l'auteur, bien sûr, parce que l'écriture est très belle et puis que l'histoire est bien ficelée, puis qu'on s'en va quelque part et que finalement, il y a toujours des éclats de lumière dans ces fanges-là, dans cette noirceur.
Alors, Michel Kibble, vous êtes ici à Vues et Voix depuis un an. Je l'ai dit dès le début de ma présentation, mais j'ai perdu un peu le fil parce que votre voix me déstabilise un peu dans le bon sens du mot. Ça me fait plaisir de vous avoir accueilli dans le studio. Est-ce que vous pensez continuer longtemps?
C'est déjà fini?
Ah oui, ça passe vite en bonne compagnie, n'est-ce pas?
oui, j'espère continuer encore des années.
Oui?
Oui, à faire ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, stimulant aussi. Et la sensation de faire quelque chose d'utile, comme je vous le disais, c'est majeur.
Alors, on est bien chanceux de vous avoir à Vues et Voix. Puis, je vous souhaite... Est-ce que vous avez fait votre bénévolat aujourd'hui?
Oui, c'est déjà fait.
Alors, un grand merci. Puis, j'en profite pour saluer tous les bénévoles. Vues et Voix accueille 350 bénévoles et 380 si on ajoute Canal M. Et puis,
c'est
tout.
Beaucoup, hein?
Oui, c'est impressionnant. Puis, il y a toujours de la place encore. Hein?
Mm-hmm.
Oui. Merci, Michel Kibble.
Hélène, c'est un plaisir.
Au plaisir.
Au revoir.
Nouvelle tirée de TVA Nouvelle.ca. Elle sauve la vie de son fils. La mère d'un adolescent de 13 ans du Bas-Saint-Laurent pourrait bien avoir sauvé la vie de son garçon en appliquant les techniques de base de la réanimation, dis-je bien, cardio-respiratoire, RCR, après qu'il se fût écroulé en arrêt cardio-respiratoire. Samuel Bérubé, un autiste léger qui fait de l'épilepsie depuis qu'il a 2 ans, s'est écroulé au sol alors qu'il soupait avec sa mère et sa petite sœur de 7 ans, le mois dernier à la maison familiale de Squatec. J'ai d'abord pensé à son épilepsie, mais ça devenait clair qu'il y avait autre chose, raconte sa mère Diane Caron. En attendant l'ambulance pendant 15 minutes, la maman a fait les manœuvres de réanimation du mieux qu'elle pouvait et a été relayée par un policier au bout de 10 minutes. Il me semble que je faisais ça tout croche, mais on m'a dit que ça a été essentiel, raconte celle qui venait tout juste de renouveler sa formation en réanimation cardio-respiratoire. Son adolescent a frôlé la mort. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire en raison d'une condition problématique au niveau du cœur qui était connue, mais que les médecins avaient jugée non dangereuse. Quand les ambulanciers sont arrivés, j'étais sûre qu'il était mort. Ils disaient qu'il n'avait pas de pouls, ajoute sa mère, qui a enfin pu sourire plus de 2 semaines plus tard quand elle a vu que son fils respirait seul et qu'il avait même gardé sa personnalité. Elle a toutefois eu très peur car à son réveil, Samuel ne voyait plus. Son autisme fait qu'il est passionné de YouTube et de jeux vidéo. Les jeunes adultes handicapés de Baie-Comeau tendent la main. C'est sur le site de Radio-Canada. Si la vie de Mathieu Deschênes s'approche de plus en plus de celle des jeunes adultes de son âge, c'est grâce à l'organisme communautaire Ma Vie. Cette qualité de vie inespérée pourrait par contre s'envoler en fumée d'ici quelques mois si le projet ne trouve pas de financement. Il ne faisait pas beaucoup de choses. Lynn Simard se rappelle très bien de quoi avait l'air le quotidien de son fils atteint de trisomie 21 avant qu'il ne participe aux activités offertes par le projet Ma Vie. Il faisait 2 avant-midi par semaine au nettoyage express, ce qu'il a continué de faire aussi. C'est un petit travail qu'il a, mais outre ça, il était toujours à la maison devant le téléviseur. Le jeune homme avait l'habitude de passer de longs moments seul à la maison puisque ses 2 parents doivent travailler à temps plein. Les parents de Mathieu deviennent émotifs lorsqu'ils imaginent la disparition de cet organisme devenu un phare dans la vie de leur fils. Son père, Jules Deschênes, espère de tout cœur que Ma Vie pourra poursuivre sa mission. C'est de l'accomplissement pour ces jeunes-là. C'est un beau programme. Ils font plein de choses. L'organisme a justement ouvert ses portes au grand public dimanche pour permettre à la population de mieux connaître le projet. Un total de 11 jeunes handicapés entre 21 à 35 ans participent aux activités de l'organisme. La coordonnatrice Annie Boisseau explique que ces rencontres permettent de les outiller pour leur vie adulte. Le projet Ma Vie a un budget annuel de 100 000 $ mais aucun financement récurrent. Annie Boisseau cogne à toutes les portes, remplit toutes les demandes de subventions et cherche toujours des partenaires, mais elle aimerait pouvoir passer plus de temps avec ses 11 protégés. Et je m'entretiens maintenant avec Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, la SAC. Bonjour, Mme Chartrand.
Bonjour, Hélène.
Ça me fait plaisir de vous reparler parce qu'on a déjà eu un entretien ensemble.
Ben oui.
Alors, cette fois, c'est sur le retour des résultats de 3 compétitions en goalball en novembre dernier. Donc, en quelques mots, Nathalie, rappelez-nous ce qu'est le goalball.
Le goalball, c'est un sport d'équipe qui a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale pour les personnes avec un handicap visuel. Le ballon a des grelots à l'intérieur, puis ça nous permet de savoir où est le ballon sur le terrain. Il est roulé par terre comme un lancer hockey.
Mm-hmm.
Et pour l'arrêter, on se couche par terre, le but a 9 mètres de long, puis on est 3 seulement pour arrêter le ballon. Puis c'est en se couchant par terre, les bras étendus, pour être le plus long possible. C'est avec notre corps qu'on arrête le ballon.
D'accord.
Mais on ne s'inquiète pas, là, on est bien padés.
Oui. Et le mini goalball, c'est le même principe?
Oui, c'est le même principe, sauf que là, on a réussi à avoir des mini-buts de goalball. Mm-hmm. Fait qu'on est les seuls au monde à avoir ça, gonflables. Ils ont 6,5 mètres au lieu de 9 mètres, parce que ceux qui jouent sont pas mal plus petits.
Oui.
Et on a eu notre deuxième tournoi le 26 novembre dernier, et j'étais très, très excitée, puis autant que les jeunes qui ont participé, il y avait 5 équipes.
Ah oui!
Il y avait une petite équipe de filles de Québec, de Granby, ça c'était des gars, on avait des Laurentines, c'était mix, Montréal qui était mix, et Montréal-Est qui était mix aussi. Et le but, c'était que ces jeunes-là puissent jouer avec un objectif,
mm-hmm.
mais aussi, vu que le goalball, c'est un sport qui est intégrable à l'envers, tu sais, l'intégration à l'envers, c'est que les voyants peuvent jouer avec nous. Fait que, tu sais, il y avait des cousines, il y avait des sœurs, il y avait des camarades de classe
ah, oui.
qui jouaient, mais qui sont voyants avec eux. C'est comme Julien de Granby, lui est seul avec un handicap visuel dans son école, fait que il joue avec des camarades de classe mm-hmm. et sa professeure Anne est... J'aimerais ça que tous les profs soient comme ça.
Ah oui, pourquoi?
Ben, dans le sens qu'elle, elle y croit tellement qu'elle est venue en mars avec toute la famille de sa, Julien
mm-hmm.
et ils sont venus essayer le goalball. Elle a acheté un ballon de goalball et à tous les lundis et vendredis, ils jouent pendant une heure.
Ah.
Julien. Et c'est pour ça que c'est eux qui ont gagné. Il était tellement fort. Il avait une super bonne défensive.
Est-ce qu'ils ont un nom d'équipe? L'équipe de Julien.
Ben, il s'appelait Granby.
Ah oui, d'accord. Pas plus compliqué que ça.
Granby. Puis après ça, le Montréal-Est, il y avait Ludovic et il y avait le petit Clovis de 7 ans. Et Gabrielle, la cousine de Ludovic, qui était là, qui ont fini deuxième. Les Laurentides, Émile, Samuel et Sandrine, la sœur d'Émile, qui ont fini troisième.
Mmh.
Edgar, lui, il était de Montréal avec Frédéric et Magali. Ça, c'était deux amis à Ludovic, qui étaient dans l'autre équipe, qui ont joué avec Edgar. Puis, les petites filles de Québec, elles étaient les trois seules handicapées. Toute l'équipe est handicapée visuelle. Donc, Amélie, Eliana et Madeleine ont fini dernière. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elles ont joué seulement 4 fois
bon.
Avant de venir dans le programme du sport pour moi. Puis, mais tout le monde a eu des belles médailles.
Oui.
Puis, ils ont eu du fun. Puis,
bien, c'est ça qui compte, hein?
Oui.
Puis de
oui,
toute façon,
oui.
plus on joue, plus on s'améliore également. Alors, les filles, là, je ne sais pas non plus.
Non.
Puis, Nathalie, à la mi-novembre, avait lieu le tournoi invitation de goalball à Halifax. Là, quelle est la particularité de ce tournoi-là? Quelles équipes étaient présentes?
Il y avait 6 équipes.
Mm-hmm.
C'est un petit tournoi, mais c'est le tournoi où Nathalie Séguin, l'entraîneur, peut se permettre d'essayer toutes sortes de choses. Sur le terrain, de toutes sortes de combinaisons, tel joueur avec tel joueur, si
ah
on
ouais.
essaye tel joueur. Les gars ont fini 4e, ils ont, par la peau des fesses, mais ils ont
quand
fini
même.
4e. Oui, 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 c'est ça.
Presque
c'est
une médaille d'argent.
Non, c'est pas une
non,
médaille
non, de bronze.
non, 4e, t'as pas de médaille.
Non, j'ai dit presque une médaille de bronze.
Oui, ouais, presque. Ouais. Mais tout le monde est content parce que tout le monde a bien joué. Puis Nathalie a essayé toutes sortes de combinaisons. Puis là, elle sait quoi faire. Puis tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à améliorer d'ici, mettons, la fin janvier pour le prochain tournoi au tournoi invitation de goalball de Montréal.
Bon, c'est parfait. Puis, en terminant, Nathalie, vous avez suivi les Jeux Paname de goalball qui viennent de se terminer, qui avaient lieu à Sao Paulo, au Brésil. Qu'est-ce que les Jeux Paname de goalball?
En fait, ça, c'est un tournoi de qualification pour les équipes panaméricaines pour savoir qui va participer au prochain championnat du monde qui va avoir lieu à Malmö, en Suède, au début juin de 2018. Et Nancy Morin, qui était dans l'équipe canadienne,
ouais.
est revenue avec la médaille de bronze
mmh.
avec 0 défaite. Elles ont gagné toutes leurs parties.
Wow!
Oui, wow, parce que en principe, contre les États-Unis puis le Brésil, des fois, c'est
une,
des fois, c'est l'autre. Là,
ouais.
Mais là, ça a bien été. Puis les hommes ont fini 3e. Bruno Haché de Montréal et Simon Tremblay y participaient aussi. Fait que les deux équipes se qualifient pour aller au championnat du monde.
Quelle bonne nouvelle!
Et ce championnat du monde-là, selon le classement, va leur permettre de savoir s'ils se qualifient pour les prochains Jeux paralympiques à Tokyo en 2020.
Bon, alors je suis certaine qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, de s'en reparler. Nathalie, merci beaucoup pour tous ces résultats très, très encourageants. Bravo à tous les gagnants. Puis, il ne faut pas lâcher.
Non, on ne lâche pas.
Au goalball et au mini-ball. Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. Merci, à la prochaine.
À la prochaine.
Autisme Canada demande plus d'équité et de transparence dans les procédures entourant le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Autisme Canada demande à l'Agence du revenu du Canada d'appliquer ses critères d'admissibilité existants pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées de façon équitable, constante et transparente pour toutes les demandes reçues. Nous voulons un accès juste et équitable au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour les Canadiens présentant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, dit Dermot Cleary, président d'Autisme Canada. Autisme Canada ajoute ainsi sa voix à d'autres organisations de défense des droits des personnes handicapées qui ont exprimé leurs inquiétudes au sujet des incohérences dans le processus d'évaluation des demandes et des renouvellements du CIPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Malgré quelques améliorations, la gare Saint-Roch de Montpellier n'est pas adaptée pour les aveugles. Thierry James, président de la Fédération des aveugles et des amblyopes de France en Languedoc-Roussillon, poursuit son combat contre la SNCF devant les tribunaux. Ils jouent la montre. Ils veulent faire durer les procédures judiciaires en invoquant l'incompétence du juge. « Ce n'est pas mon but de mener une bataille devant les tribunaux, mais nous allons être forcés de la faire », regrette Thierry James. Hier, M. James et la SNCF sont passés devant le juge en cause des problèmes de sécurité résultant des poteaux incurvés de la nouvelle nef de la gare de Montpellier. Également incriminé, la discrimination faite aux personnes aveugles et malvoyantes quant à l'impossibilité d'acheter des billets à prix réduit, vendus uniquement sur Internet via le site IDTGV, ou les applications mobiles Ouigo et Ouibus. Bonne journée internationale des bénévoles. Merci à tous les bénévoles qui sont extrêmement précieux dans notre société. Merci à mon invité Michel Keble, bénévole à vues et voix depuis un an. Merci aussi à Nathalie Chartrand, à toute mon équipe, Anne-Laure Janson et Maurice Bolduc. Ici Hélène Denis, merci à vous. À bientôt.